Donc d'abord, je suis très impressionné. J'ai peur. J'ai dit à mes copains, à mes copines, quand j'ai vu la queue, moi je pars en courant parce que c'est effrayant. Mais courageusement, parce que la force est en moi, j'ai décidé de rester. Hein, ce qui est un premier pas pour accéder, peut-être échapper à mon rôle de padawan et devenir chevalier et qui sait peut-être un jour maître. Mais ça, c'est pas pour demain. J'ai l'impression. En tout cas, donc merci à toutes et à tous de votre présence. Alors, on m'a expliqué comment ça fonctionnait. Alors, il faut que je mette ma montre dans le bon sens. Je dois faire une courte présentation. Pourquoi le bouquin? Pourquoi j'ai choisi telle ou telle réplique? Et ensuite, il semblerait que c'est vous qui devez poser des questions. C'est-à-dire que l'interrogation surprise, c'est pour moi. Alors, je tiens à dire tout de suite une chose. Non, je ne connais pas toutes les répliques et tous les dialogues par cœur. Donc, si vous me posez la question, oui, mais dans l'épisode 3, dans la scène 8, je ne pourrais pas vous répondre. C'est comme au dictionnaire, c'est ce que je disais aussi aux copains. Bon, je suis géographe de formation. Ça a passé de mode le dictionnaire, mais il y a des questions géographie. Hein. Et évidemment, chaque fois qu'il y a une question géographie, il dit ah Alain, de toute façon c'est pour toi, c'est trop simple. Oui, quel est le plus haut sommet d'Australie? Ah, j'en sais rien. Je suis géographe, mais j'en sais rien. Hein. Donc, c'est à peu près comme ça. Si vous voulez me piéger, vous réussirez toujours à me piéger. Hein. Donc, je pense pas que ce soit l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'on discute sur la profondeur de Star Wars. Et ça j'y tiens. Et pour ça, il faut que je dise un petit peu qui je suis. Je l'explique très rapidement dans l'introduction. Je suis quelqu'un de sérieux. Faut pas croire. Je suis directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Je suis docteur, enfin machin, tout ce que vous voulez. J'ai un terrain qui est l'Amérique latine. Je travaille sur les villes latino-américaines. Et puis je travaille aussi sur la science-fiction et les villes de science-fiction. Voilà. Donc. Et puis par ailleurs aussi. Je suis fan de Star Wars. Je présume que si vous êtes là, c'est parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui. Non, il y a des gens qui sont complètement hostiles à Star Wars. Et c'est justement pour ça qu'ils sont venus, histoire de démonter George Lucas et Jar Jar Abrams. Ça, c'est. Excusez-moi, c'est le petit truc que j'ai lu. Bah oui, Gigi, Jar Jar, bon, c'est quand même assez évident. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, que non, mais enfin peu importe. Hein. Donc je suis fan de Star Wars, je suis membre du plus grand club de fans de Star Wars qui est Planète Star Wars, et mon surnom sur le net c'est Dark Alain. Voilà, puisque c'est Alain Musset, donc Dark Alain, c'est pas très compliqué, et ça permet de se retrouver assez facilement. Et là j'ai pas pu. Parce que je suis venu en train, c'est compliqué, mais normalement j'ai aussi mon costume de Dark Vador. Et ça m'est arrivé de faire des conférences aussi en costume de Dark Vador. Ce qui n'est pas simple. Il vaut mieux enlever son casque, je vous le dis tout de suite. Et après on est très très content d'enlever tout le reste aussi. Mais ça je le ferai à Boulogne le 2 décembre, il y a une petite convention et là j'irai en Dark Alain, Dark Vador. Donc, petite présentation générale, vous savez maintenant pourquoi je travaille entre guillemets, et le problème c'est ça, c'est que d'un certain côté aussi, maintenant je travaille aussi sur Star Wars et ça c'est un peu triste. Mais ne vous inquiétez pas, j'arrive à faire la séparation, c'est-à-dire garder le plaisir. Hurler non quand cet enfoiré de Ben tue son propre père. Voilà, j'ai gardé ma capacité de réaction et ma capacité d'émotion. Alors, le livre qui vient de sortir aux éditions Dunod, édition sérieuse, là aussi, c'est une édition universitaire. Donc, mon précédent bouquin sur Coruscant était sorti aux presses universitaires de France. Donc, vous voyez, l'Académie sait s'ouvrir à peu près toutes les cultures et c'est, je pense, un très bon point. Et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, mais de toute façon, c'est pas l'objet en soi qui compte, c'est la question qu'on pose à l'objet. si on a une bonne question, l'objet va parler. Et que l'objet existe ou n'existe pas, on s'en fout. Moi, j'ai fait mon premier bouquin, c'est un précis de géographie urbaine et de géographie sociale sur Coruscant, une ville qui n'existe pas. Et pourtant, on peut appliquer à cette ville toutes les recettes et toutes les questions qu'on a sur nos mondes contemporains et sur nos villes contemporaines. Et là, l'idée est un petit peu différente. C'était au Festival des géographies de Saint-Dié il y a 2 ans. J'avais rencontré un délégué de Duno parce que j'avais fait un exposé sur les villes du futur et les villes de science-fiction. Et il m'a dit, il est venu me voir en disant « Ah oui, mais alors sur quoi vous travaillez ?» Et puis on a parlé de nos passions. Et parmi nos passions communes, il y avait Star Wars. Et il m'a dit « Et pourquoi pas un bouquin sur Star Wars ?» J'ai dit « Bah alors là, avec plaisir !» Je dis « Vous imaginez, on vous propose d'écrire un bouquin sur Star Wars. » Alors on a réfléchi et puis on est venu sur l'idée de faire un bouquin sur les répliques cultes de Star Wars. Et là, je tiens à mettre un bémol. Il y en a peut-être parmi vous qui ont eu le livre, ou d'autres qui vont l'acheter. Achetez-le, 10 par personne. Bon, ouais. Alors, je vous rassure tout de suite, en gros, ça me rapporte entre 45 et 48 centimes par ouvrage, donc c'est pas avec ça que je deviendrai richissime. Mais je l'ai pas fait pour, je l'ai fait pour le plaisir. Et l'idée, c'est de travailler sur les répliques. Alors, il y en a qu'on connaît. Hein, et je commence par... que la force soit avec vous. Ah, ben c'est, comment peut-on éviter ça? Mais le problème, c'est qui prononce pour la première fois que la force soit avec vous? Qui prononce dans la première trilogie, évidemment, pour la première fois que la force soit avec vous? Non. Non. Alors attendez, juste 2 secondes. Ce n'est pas Obi-Wan. Obi-Wan dit à Luke, la force sera avec toi à jamais. Il ne dit pas, may the force be with you. C'est pas pareil. Et donc, je vais vous le dire, et vous le saurez, alors je déflore mon livre, je suis désolé, c'est le général Dodona. C'est le général Dodona, avant, pour les pilotes de X-Wing et de B-Wing qui vont attaquer l'étoile noire, il leur dit, que la force soit avec vous, et c'est le premier... Vous voyez, qui prononce cette phrase-là. Et en général, tout le monde dit « Oh, c'est Obi-Wan ». Eh bien non, il ne dit pas exactement ça, Obi-Wan. Mais j'ai épluché, et puis ne vous inquiétez pas, j'ai travaillé directement sur tous les scripts originaux pour bien vérifier. Parce qu'en plus, il y a des variantes de scripts, et il faut trouver le bon script. C'est compliqué. C'est un vrai travail scientifique. Il faut aller aux sources, aux origines, etc. etc. Donc, j'ai travaillé là-dessus. C'est la première phrase, évidemment, que j'ai choisie, parce qu'elle est évidente. Et... à partir de là, évidemment, il y a des phrases cultes. Hein. Je suis ton père. Impossible. De toute façon, si j'avais fait un bouquin sans mettre « Je suis ton père », de toute façon, j'aurais péri sur le bûcher. Hein. Donc, je sais très bien que je ne pouvais pas y échapper. Hein. Et c'est assez amusant parce que cette phrase-là, alors là, confidence, en 1977, j'avais déjà... J'étais grand déjà, mais j'avais refusé d'aller voir Un Nouvel Espoir, La Guerre des Étoiles. J'avais pas voulu, non, parce que pour moi c'était un truc débile, c'était américain. J'étais plutôt vers le néo-réalisme italien, donc vous voyez, c'était pas tout à fait pareil. Et c'est en fait au Mexique que j'ai vu pour la première fois un Star Wars, et c'était l'Empire contre-attaque. Et c'était à la télé en plus, et je suis resté scotché. Je savais même pas ce que c'était au départ. Je dis rien, c'est vachement bien. Alors au Mexique, c'est tous les quarts d'heure, vous avez un quart d'heure de pub. Hein. La force était déjà grande en moi car j'ai résisté aux pubs et j'arrive à la fameuse scène où l'infâme individu vêtu de noir dit au héros, Luke, yo soy tu padre. Ah. Mon Dieu, lui, le padre, je ne peux pas le croire. Et donc, c'est à partir de là que je suis entré. Et puis, quand mon fils est né, évidemment, vous imaginez, les cassettes VHS ont circulé en permanence. Et alors, s'il y en avait un qui, lui, connaissait tous les dialogues par cœur, c'était lui. À 5 ans, il récitait tout par cœur. Bon, maintenant, il a un peu oublié, il en a 26. Mais c'est pour dire que, vraiment, on peut le faire aussi. Donc, voilà, pour expliquer pourquoi je commence par cette phrase-là. Et l'idée du bouquin, c'est évidemment des phrases cultes, mais pas que des phrases cultes. pas que des phrases cultes, mais des phrases qui ont du sens et qui sont importantes. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas les retenir nécessairement, hein, mais elles permettent d'expliquer beaucoup de choses dans l'univers Star Wars qui est très très compliqué, à la fois sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan religieux, sur le plan culturel. Tout est dans Star Wars, réellement tout est. Alors, et je n'exagère pas, il y a vraiment, ça dépasse notre culture, comme vous le savez, puisque les influences d'autres civilisations sont très très fortes, la civilisation japonaise, hein, bien évidemment, le bouddhisme, bon, et au-delà de ça, il y a d'énormes références à l'Antiquité grecque et latine, bon, donc ne vous inquiétez pas, il y a vraiment de quoi tout nourrir. Et j'ai choisi certaines phrases, hein, qui n'ont pas beaucoup d'impact. J'en prends une par exemple. If it works, si ça marche. Si ça marche, il y a quel moment qui dit ça et à quel moment? Alors c'est. Alors c'est. Voilà, ils sont sur Naboo. Il y a la fameuse scène du pique-nique, souvenez-vous, que tout le monde a considéré comme absolument ridicule, c'est mièvre, c'est gnangnan, c'est nul. En plus, il va faire de la cavalcade sur des énormes poux ridicules, etc. Et donc tout le monde a dit c'est débile. Mais dedans, il y a effectivement une discussion politique. Et dans cette discussion politique, souvenez-vous, il y a Anakin qui dit « Non mais de toute façon, tous ces sénateurs sont corrompus, on ne peut rien en faire, la République telle qu'elle est, elle va nulle part. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un homme sage, a wise man, hein, un homme sage, qui prenne tous les pouvoirs, hein, qui en termine avec le Sénat et qui impose finalement la paix à la galaxie. » Et là, il n'y a pas de mec qui dit « Non, mais tu rigoles. Hein? » Et il dit « If it works, si ça marche. » Et ça, c'est important, parce que c'est un des premiers pas. C'est petit à petit qu'Anakin, il passe du côté obscur. Mais c'est un des premiers pas. Et chaque fois, chacun de ces pas, souvenez-vous, c'est pour la bonne cause. Ça, c'est pour rétablir la paix. Ce qu'il faudrait, c'est un dictateur à la romaine. Dans l'Antiquité, hein, les Romains pouvaient élire un dictateur qui avait tous les pouvoirs pendant 6 mois, hein, et ensuite il devait déposer. Hein, et il y a eu plusieurs dictateurs dans l'histoire, effectivement, qui ensuite déposaient là, et qui retournaient faire travailler leur champ. Bon, le problème, c'est que Palpatine, il n'avait pas envie de retourner dans ses champs, hein, mais en tout cas, l'idée est là, c'est pour le bien, on va le faire. De la même manière, c'est aussi pour sauver Padmé de la mort, hein, qu'il va choisir le côté obscur, il va devenir Darth Vader. Hein. C'est chaque fois avec une bonne intention, comme quoi, encore une fois, l'enfer est pavé de très bonnes intentions. Donc j'ai choisi cette phrase-là, vous voyez, parce qu'elle est significative. Il y a une autre phrase que j'ai choisie, c'est « Finn, tu le mérites ». Vous allez me dire, hein. Bon, alors, qui dit ça? Alors, c'est Poe Dameron, ouais, qui dit à Finn, parce que vous savez, quand il se retrouve sur la base, hein, de la résistance, il dit, mais tu as mon blouson? Il dit, ah oui, je te le rends. Il dit, non, Finn, tu le mérites. Et puis, il s'embrasse, bon. Et là, il y a eu tout un débat sur le net, en disant, mais est-ce que cette, alors en anglais, est-ce que cette bromance, c'est-à-dire cette relation amicale et virile entre deux personnes de même sexe, ne serait pas une romance, c'est-à-dire véritablement de l'amour entre les deux? Et il y a eu des débats, donc dans le bouquin, je prends en compte ces débats parce qu'ils jouent un rôle important, et effectivement, c'est vrai que il y a des questions qui se posent. En fait, on peut se douter, je ne sais pas, j'ai pas encore vu, hein, je suis désolé, l'épisode 8, et encore moins le 9, je pense que vous non plus, et que vous l'attendez, comme moi, mais moi, je m'en fous, j'ai déjà mon billet qui est pris. Je ne sais pas si vous c'est fait, mais moi c'est déjà réservé. Donc l'idée c'est, est-ce que réellement Star Wars est prêt à mettre en scène une histoire d'amour homosexuel? J'ai de gros doutes à ce sujet, surtout avec Disney derrière. Bon, je sais pas trop. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que dans l'univers étendu, hein, dans les romans, dans les comics, etc., il y a des personnages homosexuels, bisexuels, il y a des lesbiennes, il y a des hommes amoureux l'un de l'autre, etc. Ça existe. Donc, petit à petit, on est en train de rompre toute une série de choses qui paraissaient des tabous, hein, et on finit par y arriver. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce qu'il y a sujet à débat. Et puis, au-delà de ça, il y a quand même une autre dimension. C'est que, je sais pas, il me semble que, si on parle de romance, entre Finn et Rey, hein, je dis rien, hein, mais il me semble bien que quand même, il y a quelque chose. Hein, et quand elle va sur Acto pour retrouver Luke avant de partir, qu'elle embrasse hein, sur le front Finn qui est toujours dans le coma, on peut se douter qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est déjà très transgressif. C'est-à-dire un amour entre une femme blanche et un homme noir. Hein. On est aux États-Unis, on est toujours aux États-Unis. Je vous signale, je vous rappelle que ce n'est qu'au milieu des années 1960 que les lois raciales interdisant, par exemple, le mariage entre couples de races différentes. On sait, il n'y a pas de race, mais aux États-Unis, ça existe, hein, le terme de race. Par exemple, quelqu'un comme Obama, qui est chez nous, c'est un métis. Aux États-Unis, métis n'existe pas. On est biracial. On est des deux races. C'est-à-dire, l'idée que ça se mélange, non, non, non. Il est coupé en deux, il y a un côté blanc, un côté noir. Mais c'est comme ça. Je critique pas, hein, c'est chacun son truc. Mais donc, c'est déjà, effectivement, très, très transgressif. Et je vois, il y a un film de 1959 qui est absolument superbe. Qui est flûte, et je m'en souviens plus, excusez-moi, parce que là ça me reviendra après. C'est un film post-apocalyptique. Il n'y a plus personne sur la Terre, il reste plus que deux personnes vivantes. Oui, voilà, merci. Le monde de la chair et le diable, merci beaucoup. Hein. Il se retrouve à New York et il y a un noir et une blanche. On est en 1959. On est en 1959. Que va-t-il se passer ? D'autant plus que on découvre un autre survivant qui lui est blanc. Eh oui ! Qui va ? Et à un moment, hein, l'héroïne dit au héros noir, elle lui dit : je suis une femme, je suis blanche, je suis libre. C'est très fort. Tu es un homme, tu es noir, tu es descendant d'esclaves. Vous imaginez, encore une fois, et on est en 1959. Hein. Je vais vous spoiler la fin. Ceux qui veulent pas, le film est sorti en 1959, normalement vous auriez dû le voir. Je la spoil. Ceux qui veulent pas se bouchent les oreilles. Hein. Que se passait-il ? Évidemment, les deux hommes se battent pour avoir la femme, c'est logique. Hein. Mais devant l'immeuble des Nations Unies, ils comprennent que c'est idiot. Et ils jettent les armes. Et la dernière image, qu'est-ce que c'est ? Alors, quand je vous dis que c'était transgressif, alors là, c'est encore plus que transgressif, c'est qu'elle prend les deux par les bras et, encadrée par ces deux hommes, elle part dans une rue de Manhattan et à la place de « the end », c'est « the beginning ». Donc, vous voyez, donc on est toujours dans quelque chose qui est d'actualité et si, effectivement, on va vers cette romance entre Finn et Rey, ce sera déjà un grand pas qui est réalisé. Alors je vous signale que dans l'univers étendu, notamment dans les romans pour ceux qui connaissent sur Rogue Squadron, etc., qui datent maintenant d'une vingtaine d'années, il y a déjà une histoire d'amour entre un humain et une botane. Hein, les botans, hein, les espions botans. Et qui fait un peu scandale, même chez les rebelles, où il y a quand même un peu plus de liberté que chez l'Empire. Hein. Mais vous voyez, donc, petit à petit, ça se transforme. Et je voudrais, parce que je vois que le temps avance, et si on veut des questions, j'ai construit mon bouquin. C'est pas classé par ordre chronologique. Hein? Alors, et puis alors, quel serait l'ordre chronologique ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus le 7A, puisque le 7A, Rogue One, je le mets aussi dedans. Ou est-ce que c'est de 1977 à 2017 ? Non, j'ai classé, parce que en classant, ça donne du sens, me semble-t-il, à l'interprétation que l'on peut faire des phrases. Donc je commence évidemment par les deux côtés de la force, parce que c'est... la force est quand même au cœur de Star Wars. Dans une deuxième partie, puisque c'est quand même tout ça, c'est l'histoire de la famille Skywalker. Hein, donc c'est la famille, l'amour et l'amitié. Ensuite, il y a une dimension qui me paraît essentielle, c'est la condition humaine. On lutte contre le racisme, on lutte contre la ségrégation, il y a toute une série de réflexions sur une phrase que j'aime beaucoup, hein, c'est ton attention qui détermine ta réalité, hein, ou alors ce que dit Yoda, hein, des êtres de lumière nous sommes et pas cette matière grossière. Là encore une fois, les références, elles sont anciennes et elles sont importantes. Ce qui me permet la condition humaine de passer à mon quatrième chapitre, où là je parle de Dieu, hein, Dieu est important, mais c'est Dieu des machines et des clones, et je termine avec la politique, le pouvoir et la guerre, parce que là aussi, toutes les aventures sont des aventures de guerre, bien évidemment, on essaye d'atteindre la paix, on ne l'atteint pas, hein, mais je termine, et c'est pour ça que je commence avec la force, et je termine avec une phrase qui me paraît essentielle, d'après vous, tiens, normalement, c'est vous qui me posez les questions, mais là, c'est moi qui vous la pose. Je termine avec quelle phrase ? Avec quelle phrase vous auriez aimé terminer ? C'est difficile, hein ? J'y ai réfléchi, et puis, comme je suis quand même un optimiste, je termine avec celle-là. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Parce que c'est l'espoir, évidemment. N'oubliez pas que le premier épisode, c'est A New Hope. Hein, et en fait, les 40 ans, hein, bien évidemment, hein, cette année. Et c'est ce qui permet aussi de faire le lien entre Rogue One et l'épisode 4. Quel est le dernier mot de Rogue One ? Ils viennent enfin de recevoir les plans de l'étoile noire, et il y a la princesse Leia reconfigurée, etc. Bon, j'ai rencontré l'actrice et j'ai la dédicace. Et je suis même en photo avec elle, super. Il y a un capitaine qui vient et dit, mais qu'est-ce qu'on nous a transmis ? Et elle dit, l'espoir. Je termine là-dessus. Voilà, pour les questions après. Donc, merci. Maintenant, ça y est, c'est ouvert. Hein, voilà. Parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Hein. Donc, moi, je fais. Autrement, je peux parler pendant encore 20 minutes. Hein. Je m'arrête pas. Hein. C'est pas si facile que ça de poser des questions. Hein. Allez, il faut toujours un qui se décide.
J'ai toujours une question sur Star Wars, c'est les couleurs des canons laser. En fait, dans l'Empire et les Rebelles, l'Empire il tire des lasers verts et les Rebelles c'est les rouges. Après, avant, les clowns ils tiraient des lasers bleus. Et les droïdes, ils tiraient des lasers rouges. Est-ce qu'il y a une signification dedans ou...
Alors, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser aux techniciens, hein, de Star Wars. Pas à moi, je reste modeste. Les cristals Kyber, j'en ai jamais extrait à titre personnel, ce que je regrette, parce que j'ai quand même fréquenté beaucoup de lieux de tournage de Star Wars, mais je suis pas encore allé en Jordanie. J'espère y aller un jour. Hein. Je peux pas répondre à cette question-là. Je regrette, ça dépasse mon domaine de compétence. En revanche, effectivement, mais ça, je pense que avec tous les Jedi qui sont ici, vous devez savoir la signification, hein, de la couleur des lames de sabre laser. Et c'est vrai que du côté Sith, ça va être plutôt rouge ou pourpre, hein, alors que du côté Jedi, ce sera d'autres couleurs. Tu vois, le vert et le bleu, évidemment, mais comme vous le savez, Mace Windu, c'est violet. Il peut y avoir des lames jaunes, et là, tout dépend du cristal que vous avez choisi. Le problème, c'est que jusqu'à ce que l'univers étendu explose avec l'épisode 7, il y en avait beaucoup de liberté, hein, pour trouver des cristaux. Et les Jedi étaient libres d'aller un petit peu où ils voulaient. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu tout le cycle de l'Académie Jedi. Oui, hein, eh bien, Luke, hein, dit à ses disciples, ben, il faut que vous choisissiez le cristal qui vous correspondra et qui va donner votre personnalité au sabre. Parce que le sabre, c'est la prolongation du Jedi. Vous avez le bras et le sabre, ça va complètement avec. Hein, et donc, vous pouvez choisir. Là, il semblerait qu'il n'y ait qu'un certain nombre réduit de planètes produisant des cristaux pouvant servir pour des sabres laser, et notamment ces fameux cristaux Kyber, ou Kyber, si vous voulez. Donc, on est un peu plus réduit là-dedans. Hein, mais à part ça, c'est vrai que je suis désolé, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Il faudra que, n'oubliez pas, de monter vous-même votre sabre laser si vous voulez devenir un vrai Jedi. Ce que j'ai fait, j'ai mon sabre laser. Alors, j'en ai plusieurs que j'ai acheté, des Master Replica, mais j'ai aussi mon sabre laser fait en bricolant avec un pied de trépied d'appareil photo, etc. On peut construire. Et vous avez des guides qui vous permettent de construire comme il faut un truc. Et la lame est très, très importante. Hein. Il faut, là, c'est au bon marché que je l'ai acheté. C'est des tringles, en fait, de plexiglas. Et ça marche très, très bien. C'est très, très costaud. Il faut même éviter de taper sur les autres sabres laser parce que ça leur crée des problèmes.
J'ai une question. Mais bonjour, c'était par rapport à Yoda en fait. Par rapport à Yoda, je voulais savoir pourquoi il parlait comme ça avec les punchlines et pourquoi ils n'ont pas fait une voix avec un langage différent aussi. Parce qu'ils auraient très bien pu le mettre en langage différencié. Alors que le faire parler d'une façon comme ça. En
fait. Alors vous touchez un énorme problème, c'est que on sait très peu de choses, et regardez dans l'encyclopédie Star Wars Universe aussi, sur l'espèce de Yoda. On ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop ce qu'il parle. Il parle effectivement bizarrement, hein, quand 900 ans comme moi tu auras moins en forme, tu seras, hein, c'est bien connu. Mais on n'en sait rien. Vous voyez, on ne sait pas. Alors après, ils ont fait ce choix parce que, bon, c'est amusant. En plus, ça le caractérise. Quand on veut parler Yoda, ne me dites pas que vous n'avez pas essayé. On a tous parlé comme Yoda, hein, et c'est très, très rigolo. Ça permet de donner quand même un petit piment à la conversation. Hein. Mais ça, c'est vrai, ça fait partie. Et puis, 900 ans, mince, quand même, bon, ça fait vieux. Il n'y a pas beaucoup d'espèces, semble-t-il. Sauf si on regarde bien, justement dans l'épisode 7, il y a quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui tient son auberge galactique depuis plus de 1000 ans. Est-ce que. Qui ça ? Mais elle parle normal, oui ? Mais. Au moins, on sait que ça fait 1000 ans qu'elle est là. Donc, c'est pas la seule espèce. Alors, j'ai essayé de retrouver. Alors, je suis allé, parce que 900 ans, ça fait Mathusalem, hein, vieux comme Mathusalem, évidemment. Donc, je suis allé chercher un petit peu dans la Bible et j'ai vu que il y a au moins dans les premiers chapitres de la Bible, il y a au moins une dizaine de personnes donc qui vivent plus de 800 ans. Hein, Noé aussi, il a vécu très très longtemps. Alors je me souviens plus si c'est Mathusalem ou pas. Tu vois, il a eu son premier enfant à 183 ans, au sortir de l'adolescence. Hein, bon, c'était. Mais je pense qu'il y a cette référence là derrière. On est dans une société, la société américaine, qui est très religieuse. Hein, et même si c'est caché, il y a toujours un arrière-fond derrière, et les références sont là. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi parmi les phrases, une phrase qui vous a sûrement, nous a pas sauté comme ça aux oreilles, c'est est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui écoute ? Qui dit ça ? Vous en souvenez ? Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui écoute ?
Un indice.
Alors, un indice, Rogue One. Oui, exactement. C'est à la fin, quand ils viennent de faire péter, d'envoyer les plans, hein, il y a cette réplique. Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui écoute ? Oui, oui, il y a quelqu'un qui écoute. Hein. Mais ce quelqu'un qui écoute, comme je dis, c'est pas un calamarien bleuâtre aux gros yeux globuleux. Hein, alors oui, il est là. Mais derrière, hein, derrière ces religieux, il y a même un gospel nord-américain qui s'intitule Someone is listening me, hein, quelqu'un m'écoute. Et alors là, il y a pas de calamariens, hein, c'est des gospels. Et je vous signale que même Cabrel, vous voyez, je suis allé chercher, hein, la cabane au fond du jardin, dit il y a quelqu'un qui écoute là-haut. Hein, il le dit. Donc il y a quelqu'un qui écoute. C'est rien, tiens, mais la pensée religieuse est là. Hein, mais le plus religieux de tous, comme vous le savez, c'est 3PO. Hein, lui, c'est un vrai religieux de première classe. Oui, il y a une question là. Ah, pardon, excusez-moi. Alors peut-être après. Oui.
Bah, en fait, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les sabres laser de comment il s'appelle le type qui a quatre bras, le Sith. Grievous,
oui.
Pourquoi ils sont de couleur Jedi, ils sont pas rouge pourpre, parce que tous les sabres des Sith sont un petit peu bizarres.
Oui. Ça dépend ce qu'on veut dire.
Bizarre,
oui.
C'est juste qu'ils sont différents de sabres, oui, normaux. Celui de Palpatine est en or, enfin le manche.
Mm-hmm.
Celui de Kish Loren, il ressemble plus à une épée.
C'est Kyle.
Oui.
la quiche Lorraine, c'est amusant, mais bon. Oui.
Donc c'est le seul site à avoir des sabres laser d'une autre couleur que rouge.
Alors, est-ce que tu connais l'histoire de Grievous ?
Bah, pas vraiment.
Ah. Ah. Alors, il faut que tu lises James Luceno. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont qui lisent aussi les romans ? Oui, il y en a. Hein, donc, alors, il y a plusieurs choses. Il y a le roman de James Luceno qui a été traduit récemment en français sur Dark Plagueis, donc qui donne beaucoup d'informations. Et Grievous, hein, lui-même, il vient d'où ? Il vient d'où ? Est-ce qu'il a toujours été Sith ? Eh non. Eh non. C'est un ? C'est un ?
C'est un
lézard. Ouais, si on veut, il y a des Jedi qui tombent du côté obscur. Hein ? Mais leur premier sabre, c'est l'exemple d'Anakin. Hein ? Leur premier sabre, ben, par exemple, il est bleu. Hein ? Après, il va choisir rouge. Mais donc, il y a la possibilité d'utiliser le sabre ancien et la possibilité aussi de varier de couleur. Parce que c'est vrai, et je l'ai dit au départ, rouge et pourpre sont les couleurs dominantes, mais elles ne sont pas obligatoires. Donc, il y a quand même une possibilité de varier un petit peu dans le spectre des couleurs. Et quand on parle de spectre pour les sites, je pense que c'est assez bienvenu. Non, il y avait un monsieur qui était là-bas. Pardon, excusez-moi, je ne voudrais pas là.
Oui, j'aurais voulu savoir, il y a un personnage qui a dû vous poser beaucoup de soucis dans votre ouvrage. Est-ce que vous avez réussi à ressortir quelque chose des sons de R2-D2 ?
Alors, je cite souvent R2-D2, mais c'est très difficile de prendre une réplique du culte de R2-D2. De la même manière, je cite souvent Chewbacca, mais si je marque là, ça risque de pas sortir. Alors en revanche, on peut prendre la traduction de Yann Solo en disant il veut dire ça. Hein. Mais oui, là j'avoue que ça m'a posé problème. Je suis pas très bon en Wookiee en plus, et je suis sûr que même Anne ne maîtrise pas complètement la langue. Alors R2D2. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui manie 6 millions de formes de communication pour nous transmettre ce qu'il veut dire. Mais encore une fois, c'est de la seconde main. Hein. Donc oui, ça m'a posé problème. Et je l'avoue, oui, j'aurais aimé mettre... mais après, ben, il faut s'entendre aussi avec l'éditeur. Pardon ? Oui, alors au départ, ils auraient voulu 101 répliques. Alors je lui dis, et pourquoi 101 ? Ben pour faire comme les 101 dalmatiens. Pourquoi pas ? Mais on est resté sur 100. C'est un chiffre rond. Et encore une fois, ce ne sont pas nécessairement des répliques cultes. Hein. Pas nécessairement culte, mais qui me paraissent importantes pour comprendre encore une fois la complexité de l'univers de Star Wars. Je crois qu'il y avait une... Alors je ne sais plus qui... Oui.
Est-ce que vous avez retenu une réplique de Jabba ?
Bah, c'est, encore une fois, non, je n'ai pas de réplique de Jabba. Et encore une fois, il aurait fallu que ça passe par traducteur, bien évidemment. Mais on aurait pu, je reconnais. Mais alors là, vous allez me dire, oui, mais alors... elles sont sous-titrées, effectivement. Oui, oui. Tu as le genre de bandit que j'aime, bon, etc., il y a de quoi faire. Non, j'ai pas, je suis désolé pour les amoureuses de Jabba. Il n'y a pas de... Mais n'oubliez pas que pour les amoureuses de Jabba, il y a une tenue particulière à mettre. Bon... que j'aime beaucoup par ailleurs, mais voilà, Jabba étant ce qu'il est, alors désolé, il n'y a pas de réplique de Jabba.
Merci beaucoup, alors je suis très fan de Star Wars, mais je vais poser une question très universitaire en fait, je suis désolé.
Je la récuse.
Bon, j'aime beaucoup cette façon justement de parler avec une façon spirituelle, humoristique et sérieuse de tout cet univers. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser avec toutes ces citations à Montaigne et au fait que dans sa librairie ou dans sa bibliothèque, il avait incrusté des plaques avec les citations de tous les grands penseurs de l'Antiquité qui, au moment de la Renaissance, servaient en quelque sorte de boussole pour s'orienter dans un nouveau monde. Alors la question que je me pose, est-ce que vous pensez que Star Wars et d'une façon plus élargie la culture populaire, entre guillemets, constitue en fait notre boussole pour penser le monde contemporain ?
C'est une intéressante question et je suis content que vous l'ayez posée. C'est très difficile à dire parce que, encore une fois, j'ai deux casquettes. En tant que fan, oui, évidemment, mais je vais dire au-delà, il y a une culture globale. Il y a une culture globale et dans cette culture globale qui est aussi une culture populaire, Star Wars a parfaitement sa place. Hein. Et c'est pour ça que dans mon introduction, ils m'ont réduit mon introduction parce que je commençais normalement, et alors là, de manière universitaire exprès pour embêter le monde, je disais qu'il y avait des anthropologues qui cherchaient en fait au fin fond de l'Amazonie un endroit où, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait un endroit, une tribu perdue qui n'avait jamais entendu parler de Star Wars. Et j'ai dit, il y a une anthropologue, une anthropologue de l'EHESS, de mon école, qui était partie, qui avait, et qui avait, au bout de plusieurs mois dans une tribu, elle dit, effectivement, ça y est, il semblait qu'ils connaissaient pas, hein. Et puis, à un moment, il y a des garimpeiros, qui ensuite des trafiquants, des chercheurs d'or qui rentrent dans le truc, et il y a une escarmouche, et bon, il y a un des habitants de la tribu, un des guerriers de la tribu, qui tue deux Garimpeiros. Donc il rentre, la tribu est sauvée, les Garimpeiros s'en vont. Et l'anthropologue, pour faire plaisir aux guerriers, elle lui dit « C'est superbe, tu es vraiment un grand guerrier. » Et le type lui répond « Nul ne devient grand par la guerre. » Et elle se dit « Merde !» Pardon, même là, Yoda a frappé. Voilà. Je sais pas combien s'il nous reste, je crois, 5 minutes, quelque chose comme ça. Oui ? C'est marrant, je dirais, c'est que sur la gauche qu'on pose des questions. C'est rigolo. Je sais pas s'il faut faire une interprétation.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, je veux savoir quel âge avaient Anakin et Padmé dans l'épisode 1. Parce que après, dans le 2, je sais pas, Anakin, il a quoi, 20 ans. Et puis Padmé, elle doit avoir, je sais pas, 40 ans.
Non !
Aussi ?
Alors là, non, bah non.
Bah dans le 1.
Non.
Dans le 1.
Non. Alors. Non. Non. Elle a pas du tout 40 ans. Non. Alors là, j'ai plus. Pardon. J'ai plus la chronologie complète dans la tête, hein. Bon, je crois que c'est 7 ans de différence, hein. Donc elle a pas 40 ans, hein. Puis en plus, c'est vexant, mince. je me demande quel âge il me donne, moi. Non, je n'ai pas 85 ans. Encore.
Bonjour.
De toute façon, c'est pas la question.
Si vous aviez juste une réplique à retenir de toute la saga Star Wars, laquelle ce serait ?
Alors, c'est assez rigolo que vous me posiez cette question-là, parce que dans Planète Star Wars, qui est le site du fan club que j'appartiens, dans lequel je suis Dark Alain, ils m'ont fait une interview justement pour la sortie du bouquin, hein, évidemment, Hypertonique, Hypertonique, c'est son pseudo. Il est vétérinaire, hein, c'est un mec sérieux lui aussi. Je vous signale que j'ai failli être invité. Il est sur Nantes, en fait. J'ai failli être invité il y a quelques années à son doctorat de vétérinaire parce que il avait fait son doctorat sur la zoologie de Star Wars. Et un doctorat très très sérieux, il m'a dit, en tant que spécialiste, tu dois venir. Bon, j'ai pas pu venir, mais... Bref, à la fin de l'interview, il me pose la question. Et je lui ai dit, c'est difficile, mais celle qui, pour moi, est la plus forte, c'est « Je t'aime, je sais ». Ça, c'est hyper beau. C'est l'amour à l'état pur. Et puis c'est Yann, non ? Bon, je sais que tu m'aimes. Hein. Et souvenez-vous que ensuite, c'est inversé. Hein. C'est Yann qui va lui dire I love you, et elle lui répond I know. Hein. Et la dernière question de l'interview, c'est quelle est la question que tu aimerais que je te pose? Et je lui dis, la question c'est comment ça se passe avec ta Leia? Hein? Il dit, alors comment ça se passe avec ta Leia? Ma Leia s'appelle Marie-Hélène. Et je lui ai dit, elle m'aime et je le sais. Voilà.